Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue à vous à Kinshasa, N'Djamena, Tokyo ou Rio. Bienvenue dans le goût du monde. À bien y réfléchir, ce que nous mangeons est de moins en moins le reflet d'où nous vivons. Merci à la mondialisation. Il n'empêche, nous ne mangeons pas la même chose que l'on soit au nord ou au sud. Les coutumes diffèrent, les goûts. Seuls les clichés et les a priori ont la dent dure, où que l'on soit. Vous l'avez compris, c'est bien d'alimentation, de nutrition et de santé dont nous allons parler encore aujourd'hui après avoir goûté ce qui nous permet d'être en bonne santé au Nord avec le chef Thierry Marx et vous, docteur Alexandra Dalu. Bienvenue.
Bonjour Clémence.
Vous êtes médecin nutritionniste à Paris, vous êtes également mésothérapeute, endocrinologue et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette autre partie de cette émission. En fait, c'est votre enthousiasme aussi qui a fait qu'on s'est dit, mais il est évident qu'il faut que nous parlions du Nord et que nous parlions du Sud, car on ne mange pas de la même manière selon l'endroit où l'on vit. Avec nous également en ligne de N'Djamena, bonjour Mahamat Béchir.
Bonjour Clémence.
Bienvenue à vous, nous sommes heureux de vous retrouver. Vous êtes enseignant en nutrition à l'université de N'Djamena et sur le terrain, vous êtes également le président d'une ONG, l'ASRAD, 6 lettres pour Alliance Sahélienne de Recherche Appliquée pour le Développement Durable. Donc vous êtes dans le théorique et dans le concret. Bienvenue à vous pour cette assiette santé africaine.
Merci beaucoup.
Pendant cette émission, nous allons également joindre le Bénin et Cotonou, où se trouve le docteur Colette Azandjeme, qui est médecin nutritionniste à l'hôpital de la mère et de l'enfant de la Lagune à Cotonou. Bienvenue à vous, donc à tous. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de bien se nourrir pour être et rester en bonne santé? De quoi on parle, Alexandra?
Alors, c'est une grande question qui n'est pas si facile. En fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de son activité physique, en fonction de sa génétique, en fonction aussi, bon là c'est le mode de vie et la culture, vous le disiez très bien, on ne mange pas la même chose et on n'a pas, en fonction des critères que je viens de donner, les mêmes besoins. Quand vous êtes nourrisson, quand vous êtes enfant en pleine croissance, quand vous êtes en convalescence, enfant ou adulte, quand vous êtes une femme enceinte, allaitante, eh bien, vous n'avez pas les mêmes besoins. Ça paraît être un rappel essentiel, surtout qu'on parle là d'assiette santé de façon large. Donc, il y a finalement des études médicales, épidémiologistes aussi, puisqu'on en a un avec nous, qui montrent que vous avez certains besoins journaliers et il est essentiel d'avoir cet apport pour avoir une optimisation des réactions biologiques qui se font naturellement dans l'organisme.
Vous êtes Colette à Cotonou, au Bénin. J'ai dit que vous étiez médecin nutritionniste à l'hôpital de la mère et de l'enfant de la Lagune. On essayait de définir cette assiette santé. Quand on dit bien se nourrir pour rester en bonne santé, qu'est-ce que cela veut dire?
Bien se nourrir pour rester en santé, cela voudra dire avoir tous les nutriments dont le corps a besoin pour pouvoir bien fonctionner. Si on les résume en 5 gros groupes, nous parlerons des céréales et des tubercules, des légumes et des fruits, des protéines d'origine animale, des protéines d'origine végétale, l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs.
Et l'eau, bien sûr, la boisson, évidemment, ça fait partie.
Et l'eau, bien sûr, et l'eau. On remplace souvent l'eau par les boissons, les sodas et autres, ce qu'il faut absolument éviter. Ça, ce n'est pas bien manger, ça fait plaisir à la bouche, mais le corps n'a vraiment pas besoin de ça pour fonctionner.
Tout à fait.
Au contraire, ça lui fait beaucoup de mal.
C'est un peu la marotte, dès qu'on parle santé et dès qu'on parle nutrition, tout de suite, ce soda et ces boissons sucrées arrivent sur le devant de la scène. Donc, on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, c'est un fléau.
Ouais. Et je voudrais savoir, et là, je vais me tourner vers Mahamat Béchir. Docteur Béchir, quelle est la différence entre bien manger et avoir un ventre vide?
Vous savez, ici, chez nous, dans notre contexte, quand vous demandez dans la rue aux citoyens lambda, bien manger, c'est quoi? Pour lui, c'est manger un plat bien garni. Donc, bien gras, viande, avec tous les sucreries que vous savez. Et effectivement, en nutrition, nous évitons tout cela. Parce que pour nous, bien manger, c'est une alimentation équilibrée et variée, comme on vient de le dire. Et la deuxième question que vous avez posée concernant le ventre vide, c'est que les gens cherchent beaucoup plus de bourratifs. Et ce qu'on mange beaucoup plus ici, si c'est au Sahel, c'est beaucoup plus les céréales. Si c'est dans les zones tropicales, c'est beaucoup plus les racines, donc les tubercules. Donc, les alimentations varient, comme on l'a dit, d'un contexte à un autre. Mais dans tous les cas, tout le monde est d'accord pour que les aliments soient diversifiés et variés. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir tous les différents groupes d'aliments. Donc, on peut parler de 3 groupes, de 5 groupes, de 7 groupes, ça dépend des écoles et des divisions qu'on fait. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut avoir une bonne portion des aliments de groupe énergétique, plus de 55%. Il faut avoir aussi des aliments de groupe constructeurs, ce sont les protéines. Et comme on vient de le dire, il faut équilibrer également les protéines d'origine animale et végétale. Et il faut aussi les aliments protecteurs. Ça, c'est les fruits et les légumes. Donc là aussi, beaucoup de gens confondent parce que les fruits, c'est un aliment de luxe. Et que les gens pensent que ce n'est pas tout le monde qui a accès, mais en réalité, les fruits et légumes, c'est tout le monde qui peut avoir accès. Parce que le concombre utilisé comme légume, c'est un fruit aussi. La tomate utilisée comme légume, c'est un fruit aussi. Et en Afrique, nous mangeons beaucoup des sauces feuilles, des légumes feuilles, qui sont très riches en micronutriments et en vitamines aussi. Donc, on peut être pauvre et avoir une alimentation équilibrée. Et surtout, il ne faut pas oublier les fruits sauvages. Parce que selon les saisons, dans tous les pays, on peut avoir des fruits sauvages, des cueillettes, j'allais dire, et que tout le monde peut avoir accès. Et ils sont très, très riches en vitamines et en minéraux. Donc, on peut être pauvre et avoir une assiette bien équilibrée et manger bien.
Oui, c'est ça.
Et surtout, ce qu'il faut déconseiller aux gens, c'est les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Donc, ces 3 aspects, il faut vraiment faire attention parce qu'avant, on pensait que les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies qui viennent des pays riches. Mais de plus en plus, dans nos pays en voie de développement, on constate que les canettes avec les sucreries sont distribuées partout. Et également, une ville comme N'Djamena, les gens à 10h, ils vont manger la viande grillée. Et souvent, ici au Tchad, la particularité, c'est qu'on a la viande du dromadaire avec le bosse qui est très, très gras. Mm-hmm. Et là, les gens mangent beaucoup de gras. Et ils boivent beaucoup de thé, du café. Donc, ils prennent beaucoup de sucre et les sodas. C'est un phénomène qui est là. Et on déconseille parce que si on nous invite quelque part, nous, on conseille de prendre l'eau. L'eau, c'est mieux que de prendre les sodas parce que le sucre, aujourd'hui, tout le monde est diabétique. Mm-hmm. C'est un fléau maintenant. Mmh.
Docteur donc, Béchir, je vous interromps parce que là, vous avez dit énormément de choses en l'espace de quelques minutes. Déjà, je vais retenir les clés d'une bonne alimentation. C'est une alimentation équilibrée et variée. Pourquoi variée? Parce qu'elle permet justement d'introduire tous ces éléments dont on peut avoir besoin. Je résume très brièvement. Ensuite, vous avez parlé également de cet attrait pour le sucre, de l'eau et des légumes et des fruits. Et il y a une question que je me posais également en vous écoutant, Mohamed Béchir, c'est est-ce qu'il y a des idées reçues selon lesquelles, en fait, les fruits et les légumes, ce n'est pas vraiment des aliments qui remplissent le ventre, qui nourrissent vraiment? Colette?
Alors, les gens pensent certainement que les fruits et légumes sont des aliments superflus, surtout les fruits. On a l'impression que c'est quand on est rassasié ou c'est pour le plaisir qu'on mange les fruits. Or, c'est dans les fruits qu'on ira trouver les micronutriments qu'il nous faut et dans les légumes, surtout qui sont cuits dans de bonnes conditions et s'ils sont frais. Parce que très souvent, nous blanchissons les légumes dans nos régions de façon à ce que l'eau de cuisson soit jetée. On les blanchit avec de la bicarbonate ou de la potasse, ce qui fait que nous perdons beaucoup de micronutriments. Et aussi, la plupart de nos légumes en Afrique sont donc blanchis, comme je l'ai dit. Donc, la chaleur va détruire certains micronutriments qui sont thermolabiles. Donc, il faut avoir les légumes le plus frais possible, si possible en salade. Nous avons des légumes en Afrique, en dehors des carottes, des concombres et autres, que nous avons connus à travers la mondialisation et autres. Nous avons d'autres, nos légumes feuilles, certains que l'on peut manger crus ou peu cuits. Donc, il faut avoir assez de légumes dans les assiettes et avoir assez de fruits. Les fruits, il faut les prendre secs, mais il faut faire attention parce que c'est quand même du sucre. Même si c'est du fructose, c'est quand même du sucre. Donc, il faut faire attention à la quantité de fruits consommés. Les recommandations chez nous sont à peu près comme dans les autres pays, mais au Bénin, par exemple, nous avons tenu un peu compte de notre contexte et nous avons mis en place un guide alimentaire avec une opérationnalisation de ce guide alimentaire qui fait qu'il nous faut au moins 2 portions de fruits par jour et 3 portions de légumes par jour. Nous avons des bols standards qui nous servent de repère pour distinguer les portions de légumes, par exemple. Donc, il vaut mieux avoir la mesure dans chaque groupe d'aliments.
L'équilibre en tout, la variété, la mesure. Alors c'est étonnant parce que Colette Azandjémé, comme le docteur Béchir, et comme vous, Alexandra Dalu, en fait, on pointe très rapidement, en fait, c'est les méthodes de cuisson. Parce qu'à la base, les produits utilisés sont des produits bruts, que ce soit la viande qui va griller ou le thé que l'on va boire. Mais c'est le sucre que l'on va rajouter au thé, c'est la graisse qu'on va rajouter à la sauce feuille, c'est la graisse que l'on va rajouter dans de la moutarde ou de la mayonnaise, dans les salades qu'on va manger. En fait, c'est cette manière de cuisiner, de préparer qui est problématique.
Alors, elle est problématique partout, puisque maintenant, on est bien tous d'accord, et ça, c'est de façon internationale, que plus un produit est transformé, moins il va avoir d'apport nutritif, donc moins il va être de bonne qualité, finalement. Quand vous le transformez, que ce soit par la cuisson, l'ultra-cuisson dans l'agroalimentaire, si en effet, vous transformez un fruit en compote, en confiture, en gelée, en coulis, si vous rajoutez du sucre ou si vous rajoutez de la graisse ou du sel à un produit à la base naturelle, finalement, il n'a plus les mêmes propriétés nutritives qu'au départ. Après, il faut aussi parler du goût. Tout le monde n'aime pas manger cru. Tout est question de dose. Quand je reprends ce que Colette explique très bien, c'est qu'il faut se dire que ce n'est pas parce que vous mangez plein de légumes ou plein de fruits, ou alors que, à contrario, vous êtes que sur de la viande. En fait, c'est vraiment cet équilibre qui est important. Donc, le système de portions dont Madame parle est intéressant parce qu'on peut tout à fait imaginer, en effet, qu'il y ait un fruit à l'heure du déjeuner, un fruit en dessert le soir quand il y a un dîner, et qu'à chaque repas, il y ait une portion de légumes. Il faut aussi comprendre qu'il y a des systèmes de cuisson qui vont rendre l'aliment plus digeste aussi. Il faut aussi se dire que la cuisson protège des intoxications alimentaires. Le fait de cuire chez la femme enceinte pour lui éviter des intoxications alimentaires qui ferait que le traitement qui serait prescrit serait dangereux peut-être pour le bébé. On ne peut pas bannir la cuisson. Et c'est aussi pour ça que la nourriture, ça doit être variée, équilibrée et surtout variée. On revient à la variété parce que on ne peut pas éviter certaines choses. On ne peut pas éviter tous les pesticides, on ne peut pas éviter tous les ajouts, en fait. Donc, quand vous n'avez pas ce qu'on appelle, nous, en science, l'effet cocktail, c'est-à-dire quand vous mangez toujours la même chose, eh bien, le même pesticide se rajoute et vous avez le même perturbateur endocrinien qui se rajoute, vous avez le même toxique qui se rajoute, et à un moment donné, le corps arrive à saturation de toxines, et donc il n'arrive plus à détoxifier, et entre autres, c'est une des raisons pour lesquelles vous allez rentrer dans une maladie, alors cardiovasculaire, tumorale, il y en a des tas. Donc c'est vrai que ce pilier de la variété est intéressant. Après, selon les moyens aussi, hein, le budget, la finance, ça peut être compliqué. Après, c'est vrai aussi que vous avez énormément de fruits qui poussent dans la nature. Quand on a supprimé le superflu, et nous, ce qu'on appelle le superflu, c'est vraiment la junk food, ouais, comme le soda, les pizzas, qui ne servent pas à grand-chose au niveau de l'organisme. Quand vous avez finalement habitué votre organisme à manger la viande, le poisson, les insectes, le riz, le millet, le manioc, et puis d'autres fruits en fonction aussi de son budget, eh bien, au niveau de la liste de courses, elle est moindre. Et que quand on a supprimé le superflu, on peut tendre à une alimentation qui serait pas trop chère et qui serait variée et équilibrée.
Mais c'est ce que disait le docteur Béchir tout à l'heure également. On peut ne pas avoir beaucoup de moyens, mais tout est question de ce qu'on met dans son assiette.
Voilà.
Si on va privilégier,
ça va être un choix,
les protéines dont on a besoin et des aliments qui réellement, concrètement, répondent aux besoins que l'on a en fonction de son âge et de son sexe, dans ces cas-là, on a une vraie réponse. Mohamed Béchir, puisque vous êtes avec nous, on va parler de cette association de médecins, de pédiatres qui s'appelle L'Appel et que vous connaissez bien. L'Appel qui a mis au point un jeu pour apprendre à bien se nourrir, justement. C'est un jeu de cartes qui s'appelle le NutriCart. Il permet d'apprendre à identifier ce dont on a besoin, à quel âge, en quelle quantité, et de fait, de faire après des menus, voir ses courses en conséquence, application concrète au Tchad, avec le récit que nous en avait fait Marcel Brown-Scheidig.
Oui, à Kumogo, c'est le cas. les personnes ont appris à prévisionner, c'est-à-dire de prévoir à l'avance, de se projeter un petit peu dans l'avenir. Du coup, elles stockent aussi les choses dont elles vont avoir besoin au jour le jour et ne vendent pas forcément la production qu'elles ont faite. Et elles budgètent des repas sur un mois. Bon, certaines sont allées jusqu'à un an, mais c'est beaucoup. Mais ça montre en fait qu'on ne parle plus d'acheter sans réfléchir à demain. Ça, ça a fait beaucoup de bien et ça permet aux femmes d'étaler les dépenses dans le temps et de mieux prévoir des repas équilibrés pour toute la famille, pour la durée.
Puis on a des idées aussi, puisque du coup, on peut, plutôt que d'aller acheter des légumes, se dire, ben pourquoi pas en faire pousser moins.
Faire du maraîchage.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer?
C'est quelque chose qu'elles souhaitent, parce que justement, les jeunes NutriCart les ont beaucoup sensibilisées au fait des besoins en fruits et légumes, surtout parce que ça manque pas mal dans les villages écartés ou dans la brousse. Et en fait, elles ont un projet actuel de faire des plantations au sein même des concessions, c'est là où les cases des familles sont, et de faire des petits jardins dans des sacs. Car elles vendent le riz, par exemple, dans des sacs, elles le stockent dans des sacs, et elles mettraient de la terre et planteraient au sein de la concession pour pouvoir les arroser tout près de chez elles et de les surveiller.
Marcel Brandscheiding, qui est elle bénévole et qui présente ce jeu NutriCart l'appel, que vous connaissez bien, Mohamed Béchir, dont vous avez vu toute l'importance en termes de choix de comment on va composer son assiette.
Le jeu de NutriCart, ça aide vraiment à sensibiliser la population sur ce que j'ai souligné tout à l'heure concernant la diversité également, comment équilibrer son alimentation. Et je voudrais ici profiter pour parler aussi de notion de complémentarité. Vous savez, en nutrition, quand vous mangez par exemple des céréales, généralement, parmi les acides aminés, les céréales sont pauvres en lysine. C'est l'acide aminé qui manque. Et quand vous prenez les légumineuses, il en manque la méthionine. Maintenant, quand vous préparez du riz avec de l'haricot, vous mélangez les deux, c'est que l'haricot va apporter ce qui manque dans le riz, qui est la lysine, et le riz va apporter ce qui manque dans l'haricot, qui est la méthionine, et vous avez un aliment plus ou moins complet. Donc, la diversité permet de faire ces compléments. Donc, vous mangez un groupe d'aliments et que ce qui manque, quand vous faites de la diversification alimentaire, l'autre aliment peut compléter aussi. Donc, avec le NutriCart, nous faisons en sorte que les gens comprennent que dans leur marmite, ils n'ont pas seulement une ou deux catégories d'aliments. Ils vont essayer de diversifier. Et aussi, vous savez, les vitamines et les sels minéraux ne sont pas recherchés en grande quantité. Donc, souvent, dans les assaisonnements aussi, on peut mettre des choses. Par exemple, la feuille de moringa, qui est très riche. On a la spiruline, qui est très riche, qui peuvent être utilisées comme assaisonnement et ça peut aider à apporter ce qui manque dans l'alimentation. Donc, en fonction des provinces et en fonction des disponibilités des aliments dans les marchés, les NutriCart permettent vraiment de voir qu'est-ce qu'il faut pour que l'assiette au niveau du ménage soit complétée. Et effectivement, l'idée d'avoir des jardins communautaires ou des jardins de cases, ça permet d'avoir accès aussi aux légumes frais à tout moment.
Et voilà, on va parler spiruline. On va d'abord écouter un petit peu de musique, faire une petite pause, parce que la discussion, elle est dense.
Ouais. Je voulais simplement dire que je félicite les créateurs de ce jeu. C'est vraiment exceptionnel. C'est comme ça qu'on apprend.
Il y a la version internationale.
Ouais, c'est génial.
Mais il n'est pas en France. Bientôt.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Hey, hey, Mr. Soldier Man,
Mountain de Hacha sur RFI, vous nous rejoignez. Bienvenue, installez-vous confortablement à notre table avec nos invités, médecins, nutritionnistes engagés, Colette Azandjimé de l'hôpital de la mère et de l'enfant à la Lagune à Cotonou, Alexandra Dalu, bien sûr, médecin nutritionniste et mésothérapeute en studio à Paris avec nous, et en ligne du Tchad, le docteur Mahamat Béchir, qui est aussi président de l'ONG Asrad. Alors vous avez dit quelque chose qui a fait sursauter Mahamat Béchir, Alexandra Dalu, c'est la spiruline. Elle m'a dit, il faudrait vraiment que je leur parle de spiruline. Alors je vous laisse la parole à l'un et à l'autre. Alexandra.
Quand je faisais mes études, j'étais étudiante à Necker et notre prof de gastro-entérologie qui nous donnait des cours en nutrition nous disait, voilà, la spiruline sauvera l'Afrique de la famine. Bon, il était très théâtral, mais c'était un bon prof. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, vous parliez tout à l'heure de tous les acides aminés, et c'est intéressant la spiruline puisque ça pousse facilement. On m'a juste parlé de parfois la toxicité qu'il peut avoir dans la terre où pousse la spiruline et auquel cas elle perdrait son impact nutritionnel. Mais voilà, il y a du fer, il y a tout dans la spiruline, donc c'était quelque chose d'intéressant que je voulais échanger, quoi, en fait. Et je reviens justement de Madagascar où il y a de plus en plus d'éducation à faire fructifier finalement sa terre avec des pépinières, avec bien sûr, bon, vous connaissez, ils ont des rizières un peu partout. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est le lien entre la nature et l'homme, mais à bon escient. Et je trouve d'ailleurs que ça se perd un peu chez nous, mais finalement, on voit aussi qu'en France, on a envie d'avoir son petit terrain. Voilà, et en France, beaucoup de gens prennent de la spiruline en gélule. Et voilà, là, moi, c'est, je parlais vraiment de la spiruline qu'on peut avoir. Enfin, il n'y a pas que les surfeurs, ouais, en Afrique du Sud qui mettent de la spiruline dans leurs smoothies avant de faire leur séance.
Alors,
de surf.
Comment est-ce que justement on la consomme, cette spiruline, Mohamed Béchir?
En fait, la spiruline, au Tchad, on a deux provinces, le Kanem et le lac Tchad, où la spiruline pousse de manière naturelle et consommé par la population de manière traditionnelle depuis des années et des années. Et la spiruline est préparée comme une sauce et elle est mangée avec la boule qui est une pâte de céréales, soit du maïs, soit du petit mil. Donc la spiruline dans ces deux provinces sont un aliment de base que les gens utilisent depuis des millénaires. Maintenant, dans les autres provinces, on utilise la spiruline sous forme de poudre. Et effectivement, il y a ces problèmes d'hygiène parce que la production naturelle s'est faite par les femmes et s'est étalée à même le sol. Donc, il faut améliorer la qualité hygiénique de la production. Et aussi, certaines études ont montré que des fois, il y a des métaux lourds. Donc, c'est pourquoi les gens essaient de faire attention à la consommation de la spiruline, surtout pour le traitement de la malnutrition. Mm-hmm. Mais sinon, il y a des poudres de spiruline qui sont utilisées. Et les gens arrivent également de produire la spiruline dans les temps avec différents milieux de culture. Le milieu de culture le plus connu, c'est le milieu Zarouk. Donc, avec des sels minéraux et autres, on arrive à faire cultiver facilement la spiruline. Les gens utilisent sous forme de poudre, c'est assaisonné dans les différents plats et on peut le manger aussi.
D'accord, de manière traditionnelle, donc on connaît très très bien cette spiruline. Je vous propose maintenant d'aller chez vous, au Bénin, à Cotonou, Colette Azandjimé avec Gloria Kouassi-Govor. Elle est allée au marché de Gbegamé, poser donc la question, elle a rencontré des gens et elle leur a dit, alors votre assiette santé, qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette?
Moi je prends généralement des aliments complets, de la pâte, du maïs et tout, et du légume, du poisson, surtout du poisson frais, parfois accompagné de la peau, du vœu, ce que nous appelons vraiment chez nous. Et si je veux varier, je prends du légume avec de la cassa. C'est toujours fait à base du maïs. Dans l'alimentation, les gens disent qu'il faut que nos aliments soient nos médicaments. Donc je contrôle bien mon alimentation, seulement que je n'ai pas beaucoup de plats. Mes plats sont pas trop diversifiés. Ça se retourne souvent tous les transformations de maïs. C'est ça, je viens de dire, akasa et la pâte.
Mes parents m'ont habitué à consommer des trucs sains. Quand je dis sain, c'est qu'il y a des 6 nutriments. Souvent, je peux trouver du riz, de la pâte, du haricot, mais je m'assure que ce que je mange tienne toujours les 6 nutriments, c'est-à-dire les glucides, lipides, protéines, les vitamines, sels minéraux et l'eau. La plupart du temps, quand ce n'est pas le riz accompagné de la sauce tomate ou avec du poisson, c'est la pâte avec de la sauce légumes. Les sauces légumes, c'est quelque chose que je consomme quand ce n'est pas du chai, c'est du bomambin ou du venonia. À défaut de 3 fois dans la semaine, je consomme du concombre. Selon ma compréhension, les vitamines proviennent des fruits. Donc quand je ne prends pas de l'orange, je prends de l'ananas ou des bananes.
Je retiens 2 choses. La première personne qu'on a entendue, il s'appelle Christian, ensuite c'était Marie-Lou, et Christian nous parle de cette pâte de maïs. Et alors là, je me suis posé la question, est-ce que la pâte de maïs plus la sauce, ça nous fait quand même une bonne assiette santé, selon vous, Alexandra?
Il va manquer certains acides aminés et certaines vitamines.
Qui peuvent être dans la sauce.
Ouais.
C'est généralement, ce sont des sauces feuilles, donc on va avoir des feuilles de patates douces, par exemple. Elle a parlé, Marie-Lou, de vernonia, qui est le ndolé. Donc on a des légumes, on peut rajouter aussi quelques tomates dans cette sauce. Donc on a quand même pas mal d'éléments et de vitamines qui viennent dans ces éléments.
Alors on aura des acides aminés d'origine végétale. Il manquera certains acides aminés. Et comme... Monsieur parlait tout à l'heure de la complémentarité. On peut leur apprendre à faire quelques associations pour que ce soit un petit peu plus complet et facile.
Parce que c'est quand même une vraie assiette très très consommée, ça, celle de la pâte avec la sauce, Mahamat. Ou d'ailleurs, Colette.
Non, c'est plutôt une assiette bien complète. Hein. Les légumes sont cuits dans une sauce de tomate. Et en général, on a du poisson, de la viande. Et là, il a parlé de peau de bœuf. C'est vrai que c'est beaucoup plus du collagène, mais il n'y a pas que la peau de bœuf, il y a souvent des morceaux de viande qui sont dans la sauce, il y a du poisson qui y est mis, du fromage, dans cette sauce de légumes. Donc, sauce légumes sans protéines pour le béninois, ça ne le fait pas. Donc, il y aura toujours de la protéine animale.
Ah, voilà. Est-ce que la crevette séchée, elle est comptée dans la préparation? On sait qu'on aime beaucoup cette crevette séchée ajoutée. Est-ce qu'elle est comptée comme une protéine? Au même titre, d'ailleurs, que pourrait être comptée comme une protéine, les insectes.
C'est de la protéine, ça c'est sûr, mais bon, celui qui mange ne pense pas qu'il a mis de la protéine, il ne le compte pas comme protéine.
D'accord.
Une protéine qu'il peut toucher et manger, là, c'est la protéine qu'il veut. Mais il y a toujours des crevettes, ou bien même de la farine de poisson pour assaisonner, pour donner plus de goût pour ceux qui ne veulent pas manger du cube magique. Et même s'ils en ont, ils mettent toujours un peu de crevette ou un peu de poudre de poisson. Ça permet d'avoir plus de goût. Et ceux qui n'en mettent pas du tout, rassurez-vous, ils ont toujours du poisson, même si c'est des fruits, du fromage, des peaux de bœuf ou de la viande. Pas de sauce légumes sans protéines animales, ce n'est pas très béninois.
Oui, on aime bien le terre-mère au Bénin, je crois. L'association terre-mère. Mahamat Béchir, vous m'avez parlé une fois de l'apport justement que représentent les insectes en termes de protéines.
Oui, je peux apporter une petite contribution sur ce qui vient d'être dit concernant les sauces avec les céréales maïs.
Avec plaisir.
Souvent, la sauce est un fourre-tout. Hein. Ça peut beaucoup varier. Et également, dans les grandes villes, on peut avoir accès à la viande ou bien au poisson frais qu'on peut mettre dans la sauce. On peut dire que c'est plus ou moins équilibré. Mais en termes de quantité, souvent, la sauce n'apporte pas beaucoup des éléments en termes de quantité. Mais en termes de qualité, on peut avoir différentes choses dans la sauce. Mais quand vous allez, par exemple, dans les villages, dans le monde rural, les sauces sont beaucoup plus pauvres. Ils ne sont pas enrichis avec du poisson, de la viande, des choses comme ça. Donc souvent, si on ne fait pas attention, on peut avoir une sauce avec une pâte qui est déséquilibrée et que certains éléments peuvent figurer, mais en termes de quantité, ne sont pas aussi importantes que ça. Et effectivement, au Tchad, concernant les insectes, on a des communautés qui consomment les criquets, d'autres les chenilles, et différents insectes sont consommés. Et effectivement, ils sont très, très riches en protéines. Ils apportent des protéines et même dans les grandes villes, vous pouvez trouver dans les coins les gens grignoter des criquets qui sont frits. Et là aussi, concernant le complément alimentaire, on oublie souvent que quand on parle d'alimentation et des assiettes, on voit seulement ce qu'on mange le matin, à midi et le soir. Mais dans la rue, les gens grignotent pas mal de choses. Et aussi, le junk food qu'on est en train de dire, qui est un phénomène en Occident, mais dans les grandes villes africaines, l'alimentation de la rue se développe parce que les gens qui viennent au bureau, ils n'ont pas le temps de repartir manger à midi à la maison. Donc, ils sortent et ils grignotent quelque chose dans la rue. Donc, beaucoup de choses sont mangées entre les repas habituels et ça peut également apporter un complément ou bien c'est un surplus qui peut pousser les gens vers l'obésité et également ce qu'on déconseille comme la mauvaise alimentation de la rue. Donc, tu confirmes que concernant les insectes, au Tchad, on les consomme. Les criquets sont consommés, les chenilles sont consommées. On ne peut pas généraliser, mais quand même, dans certaines provinces, on en consomme beaucoup plus que dans d'autres.
Et dans d'autres pays du monde aussi, également, des pays du Sud, d'ailleurs, comme au Mexique, où on est très friands d'insectes, et notamment de petites sauterelles et autres scarabées. Délicieux parce qu'on a goûté.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Mwana nini tanga tanga, mwana nini tanga tanga, baba yango be, bafiri muchoji.
Mwana nini tanga tanga, mwana nini tanga tanga, baba yango be, bafiri muchoji.
Les mamans du Congo et Robin, Luango Weaver sur RFI, bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous parlons de ce que nous mangeons, de comment manger pour être en bonne santé et le rester, que notre alimentation soit notre premier médicament, disait ainsi dans l'Antiquité Hippocrate. Donc c'est ça dont on parle avec le docteur Mahamat Béchir au Tchad, N'Djamena, qui est enseignant en nutrition à N'Djamena, et avec Colette Azandjamé, qui est médecin nutritionniste au Bénin, à Cotonou, et également Alexandra Dalu. Alors, il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans notre discussion. Vous avez parlé, Mahamat Béchir, de la cuisine de rue, du fait qu'on commence à manger entre les repas, avec une cuisine peut-être moins posée, moins traditionnelle. Autre, en tout cas, on assiste depuis maintenant, on a tendance à dire depuis pas longtemps, en réalité, ça fait une trentaine d'années, qu'il y a une vraie transition nutritionnelle, dans le sens où on a un changement dans nos modes d'alimentation, et pas seulement de vie, avec la mondialisation. Prenons l'exemple tout simple du pain. On ne mangeait pas de pain au petit déjeuner, je crois, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, il y a 40 ans. C'était la bouillie au petit déjeuner et au fur et à mesure, le pain prend toute la place et donc le blé. Et ça, ça a des effets qui sont aussi à l'origine d'autres, en cascade en réalité. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut réagir? Peut-être Alexandra. Alexandra, lève la main.
J'ai une patientèle africaine qui vit en France et qui parfois aussi retourne en vacances, voir la famille, et qui finalement sont revenus à cette bouillie et qui ont perdu du poids. Parce que je leur ai dit, il faut revenir à votre alimentation originelle, et il faut non pas bannir, hein, il n'y a pas besoin de tout arrêter, bien entendu, mais il faut diminuer ce que vous n'aviez pas l'habitude de consommer. Évidemment, la junk food, ça, c'est presque à bannir. En tout cas, vraiment... éviter les sodas, c'est du poison, c'est du sucre en perfusion, c'est du phosphate, ça peut coïncider avec la formation de calculs dans les reins, donc c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Et puis au bout d'un mois, ça fait beaucoup d'argent le soda, donc qu'on ait les moyens ou pas, finalement c'est bon pour personne. Après, la junk food de temps en temps, pourquoi pas si c'est un mode de vie absolument indispensable.
Après, il y a un vrai attrait, on ne peut pas le nier.
Voilà, c'est ça.
Cette mondialisation a aussi apporté des supermarchés, a aussi apporté notamment le soda qui n'existait pas, a apporté tout plein d'éléments qu'on a mis dans nos assiettes, dans nos marmites.
Alors Clémence, il faut faire attention parce que l'attrait, justement, il est socioculturel. Et on se rend compte que désormais, plus on a un niveau socioculturel élevé, plus on va tendre finalement vers une alimentation plus diététique, plus originelle. C'est-à-dire que voilà, maintenant en France, on va vouloir manger du millet, qui est quand même un aliment qu'on retrouve à la base en Afrique. Et puis là, les Africains vont manger du blé, alors que nous, on va éviter de trop en manger. Mmh. Donc, il y a ce paradoxe aussi mondial.
Bien sûr.
Et il faudrait faire attention à l'éducation, comme l'éducation des petits avec le jeu que je trouve vraiment fantastique.
Et les adultes aussi, tout le monde joue.
Voilà, c'est ça, avec les adultes aussi, puissent avoir cette éducation en se disant « attention ». Quand vous mangez de la junk food, vous n'êtes pas cool, en fait.
Mais c'est ça, justement, je voulais connaître le sentiment de Colette Azandjemé et de Mahamat Béchir sur cette question. Est-ce qu'il y a un effet, justement, attractif de cette nourriture occidentale? Est-ce que vous avez noté ça et ses effets?
Ben, tout à fait. On a noté ça aussi dans nos pays. Consommer de la junk food ou de la nourriture occidentalisée est comme un effet de mode. Et il y a beaucoup l'effet de la publicité. La publicité, on voit les autres en train de manger ce repas, on en vante les mérites, on a envie d'y goûter. Et les dessins animés qui font aussi la promotion de ces aliments-là, nous pensons progressivement mettre en place des systèmes au niveau de la publicité pour essayer de ramener la bonne information, même si la publicité demande par exemple de manger des céréales le matin, ce qui n'est pas pire, mais de faire de quelle façon? C'est justement ultra transformé, ces céréales qui ont été mis sous forme de cornflakes et autres. Les croissants le matin au petit déjeuner avec du beurre, avec du fromage, ça ne fait pas partie de notre alimentation de base. Et on sait bien qu'un croissant ou un friand et autres contient beaucoup de beurre, beaucoup de gras donc, a été ultra transformé avec de hautes températures de cuisson qui, somme toute, ne sont pas bonnes pour la santé avec les gras trans qui vont y être. Donc, vont être des facteurs favorisants pour les maladies cardiovasculaires. C'est vrai donc que la transition nutritionnelle est bien en Afrique, même dans les régions les plus reculées. On y va, on peut trouver du croissant, vous voyez. On va trouver des beignets faits à base de blé et du gras, donc frits dans l'huile et du sucre. Donc, ce beignet ne contient que du blé, du sucre et de l'huile. Comme on aime bien le dire, zéro vitamine.
Calories vides, justement, qui n'apportent rien au corps.
Voilà. Qui n'apportent rien d'essentiel à l'organisme. Donc, cette alimentation est en vogue. Là, c'est un peu la mode de manger du shawarma, de passer par les supermarchés à la mode pour remplir les caddies d'aliments que je trouve complètement vides. Mais on se dit, nous sommes à la mode, c'est malheureux. Et même en milieu rural.
Colette Azandjemé, vous, dans vos consultations avec des parents et des familles qui sont le parent d'enfants obèses et donc malnutris, parce que la malnutrition, c'est aussi manger trop et manger tout ce dont vous venez parler. Quelles sont les questions qui vous sont posées et quels sont les conseils que vous donnez?
La question qui sont posées en général, c'est comment faire pour maigrir, bien sûr, et comment équilibrer l'assiette. Le conseil que nous donnons, c'est de faire en sorte qu'on revienne à notre alimentation de base. Le petit déjeuner, c'est pas le pain, le beurre, le thé avec plein de sucre, non. Le petit déjeuner, on peut prendre du manioc ou de l'igname avec de l'œuf ou avec un peu de légumes sautés. On appelle ça souvent le jus de tomate, d'oignon avec de l'igname. Ou carrément, même si on prend le pain, qu'on le rajoute avec des légumes et doser les quantités. C'est surtout ça pour les enfants obèses qui arrivent, c'est les quantités. Et le plus gros problème aussi, c'est le riz. Nous mangeons trop de riz dans nos contrées. Le riz blanc n'est pas loin du pain blanc, avec son index glycémique très élevé et aussi la quantité d'énergie qu'il apporte. Et très souvent, le riz n'est pas mangé avec des légumes. Il est mangé juste comme ça, avec du gras et de la tomate. Donc, il n'y a pratiquement pas de légumes pour atténuer l'effet du glucose qui va être assimilé ainsi. Donc, il faut vraiment faire cet équilibre, comme on a l'habitude de dire aux enfants obèses, il faut que l'assiette soit tiers-tiers. Tiers en glucides, tiers en légumes, et tiers un protéine, qu'il soit de source animale ou végétale. Mais maximiser le plus possible en légumes, donc c'est beaucoup plus ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent en consultation qui sont obèses, d'une obésité morbide, vraiment effrayante.
D'autant que ce dont vous parlez, l'obésité, c'est une malnutrition. Il y a deux types de malnutrition, une malnutrition aiguë et une malnutrition chronique. Donc ça veut dire que tout au long de sa vie, il va souffrir des potentielles pathologies qui vont en découler. Mahamat Béchir, votre réaction, vous, à tout ce dont on vient de parler?
Le phénomène des junk food au niveau de nos grandes villes, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur. Et surtout, la classe moyenne veut se montrer pavanée le soir, aller manger des hamburgers, des shawarma, des pizzas, des glaces sucrées, boire du soda. D'ailleurs, en nutrition, nous déconseillons de trop manger lourd le soir. Mais c'est ce qui se fait, et le soir, les gens mangent ces choses-là, et tout le temps, et également l'obésité va suivre. Donc c'est un phénomène qui touche toutes les grandes villes africaines, et particulièrement ici, on a les restaurants plus ou moins modernes qui prennent le dessus sur l'alimentation traditionnelle, et ceux qui ont un peu de moyens, ce que j'appelle la classe moyenne, se permet, et les gens en mangent. Et effectivement, l'obésité, c'est une forme de la malnutrition. Et quand ça s'installe, tout ce qui suit comme maladie cardiovasculaire, le diabète et autres vont s'installer aussi. Et ce n'est pas facile de s'en sortir une fois qu'on est là-dedans.
Les médicaments sont chers en plus. Donc,
difficile à trouver.
Voilà, ce n'est pas le même système social qu'on peut trouver en Afrique et en France. Et donc, du coup, il faut absolument faire comprendre aux gens qu'après, la junk food, s'ils trouvent ça cool, l'obésité, ça ne l'est pas. Et les médicaments sont très, très chers.
Ouais. Je m'amuse parce que pendant qu'on parlait, Alexandra Dali m'a fait vite une assiette qu'elle a partagée en trois, comme disait Colette et comme disait Mahamat depuis le début. On est vraiment dans de l'équilibre, dans de la variété.
Et c'est un bon repère visuel, en fait, qu'on avait mis dans le bouquin.
Et que vous trouvez sur la page du Goût du Monde. Il nous faudrait quelqu'un de... Une célébrité, quelqu'un suivi par plein de gens et qui donne l'exemple et qui retrouve ses petits déjeuners. Les sportifs,
Les sportifs qui sont parfois aussi d'origine africaine, qui sont métis, l'expriment de plus en plus. Disent finalement... OK, j'étais mince, j'étais sportive quand j'étais ado aussi, mais là, j'ai 20 ans et je vois bien que ma condition mentale et physique est beaucoup plus intéressante. Je suis plus performante parce que je mange mieux. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que ce sont des bons modèles, ce sont des jeunes. Ils ont quand même moins de 30 ans, moins de 25 ans, même pour certains. Et ils sont connus dans le monde. On pense à certains footballeurs qui ont refusé des sodas en pleine conférence de presse. On pense à d'autres footballeurs qui ont exprimé ce que je viens de vous dire, qui mangeaient vraiment que de la junk food et qui sont revenus à une nourriture plus traditionnelle ou plus variée, en se disant non, c'est pas si cool que ça. Finalement, est-ce que ce serait pas plus cool d'avoir une mangue délicieuse en dessert, quoi?
Quand même une mangue séchée.
C'est tellement bon. Non, mais il faut reprendre à l'origine. Le fait qu'on ait envie de faire comme l'autre parce qu'on croit que l'autre est cool.
Comme on l'a fait, nous.
Et que finalement, c'est ce retard qui fait que là, il faut arrêter ça. C'est-à-dire, on ne va pas être cool parce qu'on va commencer à manger des yaourts, à boire du lait, à boire du soda, à manger des sandwichs et à manger des pizzas. Non, on va être cool parce que... on va conserver notre nourriture originelle, nos traditions, notre valeur, et puis qu'on va rester mince, on va rester sportif, et surtout, la santé, c'est un luxe. C'est un luxe pour tout le monde. Partout dans le monde, la santé, c'est un luxe, et elle va devenir de plus en plus un luxe. Donc, on a tout intérêt à contrecarrer les publicités, j'ai envie de dire mensongères, mais laissons les gens faire leur job. Mais peut-être en effet qu'avec des repères visuels, de l'éducation chez l'enfant, de l'éducation à l'école, de l'éducation avec des associations, on va faire comprendre aux gens que pour être cool, il faut rester en bonne santé.
Ça, c'est un bon slogan. Un petit mot de la fin, peut-être, Colette Azanjame.
Bien manger implique donc manger pour être en bonne santé. Il y a plein de maximes qui le disent. La santé, c'est dans l'assiette. Malheureusement, nous faisons chaque jour notre pomme avec nos dents. Dans l'assiette, il nous faut même ce qu'il nous faut pour être en bonne santé. que notre médicament soit notre aliment et que notre aliment soit notre médicament, dit-on. Donc, bien manger signifie manger pour être en santé. Et ça, il faut que nous puissions tous nous retenir. Quand on ne mange pas bien, on a deux points de maladie. Soit une maladie pas carente, donc des choses vont nous manquer, la malnutrition, la dénutrition, ou nous avons donc une surcharge où nous avons trop d'éléments, plus qu'il n'en faut. On se retrouve dans les maladies cardiovasculaires, le diabète et tout le reste. Bien manger est capital. Et bien manger, il faut l'adapter à sa culture. Prendre une petite bouillie au matin, ce n'est pas dégradant. Au contraire, c'est ce que notre corps apprend à assimiler. Manger à midi son bol de pâte avec légumes. Et quand on n'a pas de protéines, mais il y a la moutarde qui est du muret, qui va en amener un tout petit peu, même s'il n'y en a pas beaucoup, on en aura déjà.
Absolument, le néré pour cette fin d'émission. Merci Colette. Mahamat Béchir, un mot de la fin.
Concernant les publicités mensongères, il faut qu'on arrive à les contrecarrer. Et pour cela, il faut avoir un environnement politique et également un cadre législatif qui permet vraiment de faire face à cette situation-là. Au Tchad, pour les adultes, par exemple, nous avons, comme Colette l'a dit, au Bénin, nous avons le guide d'alimentation. Nous avons mis en place ce qu'on appelle le RAN, les recommandations alimentaires nationales. Là, nous avons recensé un certain nombre de plats que nous utilisons au niveau local pour faire la publicité. Et également, pour les petits-enfants, nous avons mis en place ce qu'on a appelé le code de substitut du lait maternel. C'est une loi qui interdit ces publicités mensongères et faire la promotion de l'allaitement maternel exclusif pour les enfants de 0 à 6 mois et réglementer l'utilisation des aliments de complément. On peut lutter contre les publicités mensongères, mais en contrepartie, il faut avoir quelque chose pour proposer et également des lois pour contrecarrer.
Merci à vous, Mahamat Béchir. L'Afrique nous montre le chemin.
Merci.
Donc le goût du monde se refaire. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu, Dr Alexandra Dalu, Colette Azandjeme, Mahamat Béchir. Vos associations et programmes sont sur la page du goût du monde pour vous suivre et vous découvrir également. Merci à Christelle Trazier de l'UNICEF qui m'a aidée dans la prise de contact également à Assetou Konaté de l'émission Priorité Santé. Les recettes faciles avec des produits locaux africains en quelques minutes et bons pour la santé sont en podcast comme les portraits des acteurs de santé et de Priorité Santé, le tout sur RFI. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. On vous donne toutes les deux rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. L'atelier.